Blanc de Noir, deuxième partie. Donc, comme promis dans la première, quelques news de la planète polaire. Et d'abord, je vous rappelle, on en reparlera plus longuement la prochaine fois, mais l'événement polar de la Côte d'Azur, c'est le festival Polar à Drape, et ça se passera du vendredi 3 février au dimanche 5 février. Ceci dit, le vendredi 3 février, c'est réservé aux scolaires, donc c'est pas la peine de vous précipiter dans cette, bourgade, dans les hauteurs de Nice. Vous savez, c'est sur la route du Comte de l'Escarène. Voilà, on monte vers la Trinité. Donc, de nombreux invités, dont le parrain, cette année, Marc Villard. C'est normal, Marc Villard a beaucoup écrit sur la musique et dans des styles avec des rythmes très très musicaux. Et comme un des thèmes, c'est la musique, il était tout à fait logique de le convier à être parrain de ce festival. Beaucoup d'autres auteurs dont nous vous avons parlé régulièrement cette année ici, par exemple Marin Ledain, Jean-Bernard Pouy, c'était plutôt les années passées, Jean-Hugo Pell. Et puis, il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé d'une petite nouvelle, Marie Neuzer. Je vous ai parlé de son premier roman, j'en ai parlé avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs, parce que c'est vraiment un beau texte. Et je rappelle que ce livre s'appelle « On tue les enfants français dans les jardins ». Donc notez sur votre agenda, samedi 4 et dimanche 5 février, on vient, il y a plein d'animations, on vous les détaillera un petit peu plus à la prochaine émission, juste avant d'ailleurs le week-end polar. On va parler d'une soirée un petit peu plus loin, certes, c'est autour, aux alentours d'Aix, d'Aix-en-Provence, dans un petit village qui s'appelle Venelle. Et donc, il y aura une animation polaire. Polaire, c'est un petit tour géographique, littéraire, dans le polar des pays scandinaves. C'est présenté par la Noiraude. Et la Noiraude nous parlera donc des romanciers qui n'ont certes pas la notoriété d'un Stieg Larsson. Je vous rappelle que le film Millennium sort ces jours-ci.
Hier.
Ah bah oui.
Non, même aujourd'hui. En fait, oui, tout à
fait. Je rappelle que nous sommes mercredi.
Oui, mais il est sorti en avant-première dans certaines salles.
C'est cela, oui. Donc, Stieg Larsson, auteur de Millennium, un autre aussi très connu suédois, Henning Mankell. Mais si vous venez à cette animation, vous verrez qu'il y a bien d'autres auteurs scandinaves tout aussi talentueux. Pour les renseignements, vous pouvez téléphoner à la bibliothèque de Venelle. Donc, je vous donne rapidement le numéro. On le remettra sur Internet. 04 42 54 93 48. Ou on peut téléphoner aussi à la Noiraude. 04 93 22 88 83. C'est vite dit, mais bon, ce sera, les coordonnées seront sur Internet. Et puis, Jacques, on peut peut-être donner notre mail, ce qui fait qu'on pourra donner aussi des renseignements sur Polar à Drape et sur Venelle.
Le mail, c'est noiraude@lanoiraude.com.
Donc, Jacques, avant de te laisser la parole, dernière petite news. C'est rare qu'on parle des rééditions, mais là, ça vaut vraiment le coup. Un de nos romans favoris de Philippe Carrez, Le bal des cagoles, qui était sorti en 2000 et qu'on ne trouvait plus actuellement. Les cahiers, une édition qui sort de Les cahiers du Sud et qui vient de ressortir quelques titres, a le très bon goût de ressortir ce livre. Donc, Le bal des cagoles, ça sort après-demain. Décidément, on va pas s'en sortir avec les jours.
Bientôt.
À les cahiers du Sud. Et c'est de Philippe Carrez.
Le bal des cagoles.
Voilà. Peut-être aussi drôle, les romans dont tu vas nous parler maintenant, Jacques.
Bon, peut-être pas aussi drôle, mais en tous les cas, plus drôle que les romans dont tu as parlé en première partie. Et donc, c'est deux romans de Andrea Camilleri, dont je vais parler maintenant. Le premier s'appelle Le Chant du Potier. Il est paru au Fleuve Noir et il est traduit par le traducteur attitré de Camilleri, Serge Kadrupani. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas le commissaire Montalbano, puisque c'est une enquête du commissaire Montalbano, et de son papa littéraire, Andrea Camilleri, un rapide rappel. Andrea Camilleri, il est italien, sicilien. Il est né à Porto Empedocle, donc au sud de la Sicile, en 1925. Ce qui lui fait, si j'ai bien compté, la bagatelle de 87 années, ce qui est quand même pas mal.
Surtout pour produire plusieurs bouquins par an. Ouais.
Alors, il a commencé par écrire de la poésie, puis en fait, après, il s'est consacré au théâtre et à la mise en scène. Il a, pour l'anecdote, adapté à la télévision la série des Maigret avec un certain Gino Servi dans le rôle du fameux commissaire. Donc Gino Servi, ici, c'est...
On se rappelle des Don Camillo.
On se rappelle très bien, voilà, c'est Pépone. Et en fait, c'est finalement assez tard, en 1982, qu'il, sous la pression en fait d'un de ses bons amis qui s'appelle Leonardo Sacchia, que vous connaissez peut-être parce que c'est quand même un écrivain italien très célèbre, qui a écrit le roman dont... on a fait Cadavre exquis ensuite. Donc en fait, c'est sous la pression de Leonardo Sacchia, il finit par publier son premier roman qui s'appelle Le cours des choses. Puis, un peu plus tard, bien plus tard même en fait, commence la série des Montalbano en 1994 avec La forma dell'acqua, qui a été traduit assez justement en français par La forme de l'air.
De l'eau. Je sais bien que c'est un des quatre éléments, mais enfin bon.
En 1998, au fleuve noir.
Je rappelle que c'est une très belle découverte de Nathalie Benat, qui, à l'époque, était la directrice de Fleuve Noir, voilà, de cette collection.
De cette collection. Et, depuis, régulièrement, quasiment une fois par an, on retrouve avec plaisir, voire avec délectation, le nouveau Salvo Montalbano et une enquête de son équipe, la brigade du commissariat de Vigata. Et en fait, Vigata, c'est, disons, le nom de plume de la ville de naissance de Camilleri, qui est Porto Empedocle. Alors, maintenant, on a présenté l'auteur, on va présenter le Salvo Montalbano. Alors, on peut dire qu'il est bougon. C'est ça, son attitude principale. Mais c'est un flic quand même efficace, mais il n'est pas passionné par le boulot. C'est pas vraiment l'enquêteur, mais il le fait très bien. Par contre, ce qu'il adore, c'est manger, et en grande quantité.
Oui, c'est ce que j'allais le dire. Moi, je dirais qu'il est plutôt gourmand que bougon. Sa première caractéristique.
Voilà. Il a aussi une certaine faiblesse pour les femmes, malgré Livia, qui est son éternelle fiancée génoise.
Oui, mais elle est du Nord, alors en Sicile. Hein.
Et souvent, au cours de ses enquêtes, une de ces belles dames ou jeunes filles, qu'elles soient témoins, suspectes ou amies, ne le laissera pas toujours aussi indifférent que la morale chrétienne le voudrait. Dans cet épisode, qui est le 15e, le commissaire de Vigata va enquêter sur un cadavre qu'on a retrouvé découpé en 30 morceaux dans le champ du potier. Le champ du potier, c'est le nom de cet épisode.
Est-ce qu'il les a mis en pot?
Non, pas du tout. Ah bon. C'est le champ du potier, c'est parce qu'en fait, c'est là qu'ils ramassent la glaise et l'argile pour faire les pots.
Ah, d'accord.
Et donc, la belle du roman, puisque j'ai dit qu'il y en avait une par roman, elle s'appelle Dolores, c'est une jeune colombienne, belle à tomber par terre, qui vient peu après la découverte du cadavre, déclarer la disparition de son mari. Alors, de là à penser que le puzzle humain, donc découpé en 30 morceaux, est lui-même le mari disparu, il n'y a qu'un pas. Mais Salvo Montalbano n'aime pas la facilité. Et comme il doit gérer en même temps deux autres problèmes, un qui est récurrent dans les derniers romans, c'est son âge. Et l'angoissante approche de la retraite avec sa chérie génoise. Et il gère aussi un autre problème, là qui est nouveau, c'est la très très mauvaise humeur et très très communicative mauvaise humeur de son premier adjoint, Mimi Augello.
Il l'aime pas toujours. Hein,
il l'aime pas toujours. Et là, il a quelques soucis avec lui, car en fait, il semble avoir replongé dans ses démons d'avant mariage, qui était la séduction de jeunes damoiselles.
C'est pas un crime, ceci
c'est
dit.
C'est pas un crime. Mais maintenant qu'il est marié, oui.
Ah oui, puis il a un enfant en plus.
Voilà. Alors, dans les précédents romans, les 3-4 précédents, l'intrigue ne semblait pas vraiment intéresser Camilleri, ni Montalbano, du coup. Les indices arrivaient au détour d'une conversation. C'était plutôt les à côté de l'enquête qui prenaient le pas sur la pure résolution de l'énigme. Là, non, on change un peu. Montalbano, il met vraiment du sien. Il enquête, il interroge, il se déplace, il fait même des kilomètres en voiture, alors qu'il déteste ça. Bref, il utilise même, ça c'est une espèce de petit clin d'œil de Camilleri à lui-même, il utilise comme indice un roman qu'il a lui-même écrit sous le nom de Camilleri et qui n'est pas un Montalbano, où il y a l'indice qui va remettre l'affaire en fait dans la bonne voie.
Ceci dit, il faudra que tu m'expliques un jour comment on peut se faire un clin d'œil à soi-même, parce que ça doit être un peu délicat quand même.
C'est l'avantage, c'est quand on est auteur, c'est ça qui est pratique.
Tout à fait.
On peut mettre Salvo Montalbano qui va chercher dans sa bibliothèque, qu'est-ce qu'il prend? Ah tiens, j'ai un livre de cet auteur très sympathique, Andrea Camilleri. Bon, c'est amusant et puis ça mange pas de pain. Et ça fait quand même remettre l'enquête dans la bonne voie. Et puis en fait, s'il se plonge dans le travail, c'est que eh ben, il veut s'étourdir dans le travail pour éloigner ses angoisses. Car, en fait, eh ben, l'âge le pèse, lui pèse dessus, il y vient aussi, et les angoisses montent. Bref, vous avez compris, je suis enthousiaste sur ce roman. C'est de nouveau.
Sur l'auteur,
c'est ce que j'allais dire. C'est le duo Montalbano-Camilleri a encore de nouveau une très belle réussite.
Eh ben, on va rester en Italie pour la musique, je pense.
On va rester en Italie pour la musique. Alors, c'est du jazz, ou pas. En tous les cas, c'est trois musiciens italiens. Non, ils sont cinq, en fait, mais il y en a trois musiciens principaux. Roberto Cipelli, qui est le pianiste. Paolo Fresu, qui est le trompettiste, bugliste. Et Gian Maria Testa, qui est le chanteur, et qui était aussi le chef de gare de la gare de Cuneo, il y a encore quelques temps.
Mais c'est un des grands auteurs-compositeurs italiens.
Voilà.
Actuels.
Et donc là, il chante une chanson qui n'est pas du tout d'eux, mais de Léo Ferré.
On va pas dévoiler, on va les laisser deviner.
Je peux le dire, le titre en italien, c'est Col Tempo Sai. Comme je le prononce tellement mal, ça vous donnera strictement aucun indice. Allons-y.
Col tempo sai, col tempo tutto se ne va. E non ricordi più il viso, e non ricordi la voce. Dentro un cuore che tace serve a niente cercare. E ti lascio partire, è molto meglio così. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va. L'altro che tu adoravi, che cercavi nel buio, l'altro che indovinavi in un muover di ciglia, e fra le righe e le parole e sotto il fondotinta di promesse agghindate per uscire a ballare. Col tempo sai, tutto scompare. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Je crois que le suspense n'a pas duré longtemps.
Non, puisqu'il a dit en français.
Même le début en italien, on pouvait reconnaître ce merveilleux morceau de Léo Ferré.
Et voilà, on n'a pas eu la chance en fait d'entendre dans ce morceau Paolo Fresu.
Le bugle de Paolo Fresu, mais dans le disque.
Voilà, mais je vous engage aussi, si vous voyez en concert, c'est très très beau, il chante du Verlaine aussi.
Ça doit être magnifique. On reste en Italie donc.
On reste en Italie et comme par hasard avec un auteur qui s'appelle Andrea Camilleri.
Ah là 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 là.
Mais ce coup-ci, en fait, il s'est associé pour un roman avec un autre auteur italien, célèbre aussi, Carlo Lucarelli.
très grand
c'est
auteur,
en fait, les deux auteurs
trop méconnus en France.
Et ils sont mis à deux pour écrire un roman à quatre mains ou à deux claviers. Et en fait, l'astuce, c'est qu'il faut intervenir chacun leurs deux héros récurrents, donc Grazia Negro, qui est de Bologne, qui est l'héroïne de plusieurs romans de Carlo Lucarelli. Évidemment, on en parlait il y a quelques instants, Salvo Montalbano de Vigata, Sicile, pour
Andrea Camilleri, au cas où vous n'auriez pas suivi. Hein.
Voilà, ben, on ne sait jamais ceux qui sont arrivés juste pendant la chanson.
Et voilà.
Alors tout commence par un meurtre, évidemment c'est un polar, un roman d'enquête. Un homme est retrouvé mort dans une cuisine, étouffé avec un sac ayant contenu des poissons rouges. J'ai d'ailleurs oublié de préciser que le titre du roman, c'est « Meurtre au poisson rouge ».
Avec une très jolie petite couverture.
Avec un joli poisson. Et donc, évidemment, les poissons ne peuvent pas témoigner, parce qu'ils sont morts aussi après qu'ils aient quitté le sachet plastique.
Oui, en général, c'est assez fréquent, hors de l'eau.
Mais voilà, le seul témoin vivant a quitté Bologne.
Et muet comme une carpe, non, pardon.
Par force des choses, puisqu'en fait, il a quitté la ville pour fuir à Palerme. Et voilà la raison pour laquelle Grazia va s'adresser à Salvo pour obtenir des renseignements. Alors c'est un roman très court, 150 pages, et c'est aussi un roman épistolaire, car en fait, toute l'intrigue est résolue que par des échanges de courriers, de messages, entre Salvo et Grazia. Alors, ils ne font pas échanger que des courriers, en fait, d'ailleurs, parce qu'ils échangent des colis de spécialités culinaires, ce qui permet d'avoir, j'ai oublié tout à l'heure d'en parler, dans Camilleri, dans le champ du potier, bien sûr, il y a quelques recettes qui émaillent les romans.
Là, c'est des spécialités.
Là, c'est Lucarelli, d'ailleurs, qui donne la recette. Et je vous la laisse découvrir. Alors, le roman comporte aussi des facsimilés de rapports de police, des flyers publicitaires, des photos. Alors on sent que les deux auteurs se sont vraiment bien amusés en fait à essayer de piéger l'autre en mettant le personnage de son adverse, disons, dans une situation embarrassante. Et puis il faut que l'auteur se dépatouille, si j'ose dire, avec ça. On pense d'ailleurs un peu à certaines façons qu'avaient de travailler Jean-Bernard Pouy et Marc Villard en se donnant des... dans les recueils de nouvelles, dans des contraintes. Là, sauf que là, c'est dans un
seul récit.
C'est dans un seul récit qui a une certaine unité, qui est l'enquête. Et évidemment, si les auteurs se sont bien amusés, les lecteurs s'amusent aussi. Mais attention, c'est pas du tout fait par-dessous la jambe, comme ça. C'est bien écrit. Les deux auteurs ont fait vraiment ça très très sérieusement. En fait, c'est pour répondre à une demande de leurs éditeurs lors d'une conversation entre eux. Et je vous engage d'ailleurs à lire la postface qui explique la genèse de ce roman et peut-être même, à mon sens, à la lire en préface, c'est-à-dire avant de commencer le roman, parce que ça donne une petite... une vision qui me semble intéressante de le lire avant plutôt que de le lire après.
Voilà, donc lisez la postface.
Et ensuite le roman.
Et ensuite le roman, vous avez compris.
Qui est publié au Fleuve Noir, qui est traduit.
C'est oui, j'allais te demander.
Voilà, qui est paru un peu avant les fêtes. C'est traduit par Serge Cadrupani. C'est donc paru au Fleuve Noir de Camilleri et Lucarelli, meurtre au singulier, au poisson rouge, pluriel. C'est une petite pépite. À s'offrir ou à offrir.
Voilà, on rappelle Le Champ du Potier, Meurtre au poisson rouge. À bientôt, bonne lecture de ces 15 jours.